Chapitre 32. Impasse. Vendredi, 18 août 2000, 17h57. Cormeilles en Parisie. Simon avait quitté l'autoroute à 15, exactement à 17h53. Il était fatigué. Il avait perdu un temps fou sur le périphérique après avoir quitté l'autoroute de Normandie. Les joies de la région parisienne à vendredi soir. Mais il était enfin arrivé. Cormeilles en Parisie s'étendait tout près de la sortie autoroutière. Simon devait reconnaître que la Twingo de Clara tournait comme une petite horloge. Le seul problème concernait la pile de CD dans la voiture. Entre Goldman, Balavoine et Obispo, Simon commençait à faire une overdose de variété française. Au moins, cela lui vidait la tête et lui permettait de penser à autre chose. À cette affaire, par exemple. Toutes ces coïncidences. Goldman chantait pour la troisième fois « On ira » lorsqu'il rata la direction de Cormeilles en Parisie. Il voulut bifurquer au rond-point suivant, mais se retrouva au beau milieu d'une zone commerciale, dans un flux de voitures roulant au pas. « Merde !» pesta Simon. « Les cons ! Même en août, ils remplissent leurs chariots !» La zone commerciale des Châtaigniers lui sembla interminable. Il mit un bon quart d'heure à sortir du piège et à reprendre la route en sens inverse. Quelques ronds-points plus tard, il se trompa encore de direction et se retrouva rue d'Argenteuil. Il avait placé la carte sur le siège du passager avant et tentait de lui lancer des regards en coin. Mais ce n'était guère pratique et il faillit plusieurs fois sortir de la chaussée. À la vue du panneau Argenteuil qu'il dépassa, il lâcha pour lui-même un nouveau « Merde !» retentissant. Demi-tour. Finalement, après plus de 20 minutes à galérer entre Argenteuil et Sartrouville, il parvint enfin à entrer dans Cormeilles en Parisie. En suivant le boulevard Joffre, comme il l'avait repéré sur le plan que Clara lui avait imprimé sur Internet, il trouva la rue de Chatou, qui devait le mener au square Louise de Villemorin, le lotissement de la famille Ducouret. Il se croyait au bout de ses peines, mais il se retrouva successivement dans le square Boris Vian, puis le Guillaume Apollinaire. Enfin, après plusieurs nouveaux demi-tours et insultes de Simon à lui-même dans l'intimité de la Twingo, il déboucha sur le square Louise de Villemorin. Le lotissement était désert. Les volets de 2 maisons sur 3 étaient fermés. « Si je voulais vider une maison, » pensa Simon, « c'est bien là que je viendrais. » Après avoir au moins emprunté 2 fois chaque cul-de-sac du lotissement, il finit par trouver au fond d'une discrète impasse le 2 square Louise de Villemorin. Un petit pavillon anonyme. Peinture blanche, jardin miniature, portail en bois exotique, un peu trop monumental pour les dimensions de la maison. Mais surtout, volet fermé. Simon étouffa un nouveau juron. Il gara sa voiture devant le pavillon et vérifia le nom sur la boîte aux lettres. Thierry et Brigitte Ducouret. Pas de doute, c'était là. Il sonna. Personne, bien entendu. Il regarda sa montre. 18h43. Il y avait une petite chance qu'il travaille, qu'il soit parti faire une course, qu'il revienne bientôt. Mais on ne ferme pas les volets pour aller au supermarché. Il jeta un regard circulaire dans le lotissement. La maison voisine semblait occupée, une fenêtre était même ouverte. Il s'avança. Avant même qu'il ait eu le temps de sonner, une femme âgée surgit comme par magie juste devant lui. Soit elle le guettait, soit elle vérifiait accroupie si ses fleurs poussaient à la bonne vitesse. Simon afficha une mine polie. « Bonjour, madame !» La voisine lui jeta un regard méfiant. « Je cherche Thierry et Brigitte Ducouret, ils ne sont pas là ?» La voisine lorgna la plaque d'immatriculation de la Twingo. Pas le genre bavarde, pensa Simon. Ils sont partis en vacances, finit-elle par lâcher. Ils ne reviendront pas avant 1 semaine. Vous êtes de la famille? Simon étouffa un nouveau juron. Un ami, plutôt. Vous savez si je peux les joindre? Ils ont un portable? La vieille semblait de plus en plus méfiante. Un ami qui n'avait pas leur téléphone? Louche. Elle coupa court à la conversation. J'en sais rien du tout, vous voyez? Je surveille les allers-retours dans le coin, mais c'est tout. Je me mêle pas du reste. Au moins, vous savez peut-être où ils sont partis en vacances ? La voisine ne fut guère plus coopérante. Généralement, ils m'envoient une carte postale. Donc leur lieu de vacances, je le connais. Mais après coup, vous voyez ? Mais là, comme ils sont partis ce matin, la carte postale, je ne l'ai pas encore reçue, vous voyez ?
Je vois. Et les autres fois, ils allaient où en vacances ?
La voisine fronça les sourcils, hésitant avant de répondre.
Au bord de la mer, toujours. Il fait du bateau, lui, vous voyez ? Pour le reste, il bouge tous les ans.
Ce n'était pas la peine d'insister davantage. Simon n'apprendrait rien de plus. « C'est pas grave, » finit-il par concéder en affichant malgré lui un sourire. Il remonta dans la voiture. Il s'aperçut que la voisine regardait fixement sa plaque d'immatriculation pour en retenir le numéro.
« Faut qu'elle arrête de regarder Derrick !»
pesta Simon en colère. Il rebroussa lentement son chemin, tout en hurlant un
« Putain de merde !»
mémorable à en faire trembler les parois de la Twingo, que la vieille voisine dut d'ailleurs entendre. Il sortit du lotissement du premier coup, comme par miracle, et se fit la réflexion qu'il ne savait pas, et ne saurait sans doute jamais, qui était cette Louise de Villemorin. Il se gara sur un arrêt de bus de la rue de Chatou et se prit la tête entre les mains. Une impasse. La piste de square Louise de Villemorin-Cormeil en Parisie était une impasse. 5 heures de route pour rien. Cette famille Ducouret et l'orphelin Colin Rémy pouvaient se trouver n'importe où en France, en Espagne, en Grèce ou en Croatie. Comment les retrouver? Il avait bien une idée, mais il avait du mal à prendre la décision définitive. Il regarda à nouveau sa montre et soupira. Il se donna 2 petites tapes sur la joue et sortit une autre carte routière, une carte de France. Il fit glisser son doigt le long de l'autoroute A6 jusqu'à Lyon, Avignon, Aix. Son doigt descendit jusqu'à Nice. Il souffla un moment, regarda encore sa montre, puis tapota plusieurs fois la carte routière, exactement sur la ville de Nice. En souriant, il chantonna à haute voix « On ira ». Tout d'un coup, il tourna la clé de contact. Le moteur de la Twingo ronronna.
C'est parti, Gabriel. Compte jusqu'à 10. 10 heures pile, j'arrive.
Il mit son clignotant et reprit la direction de l'autoroute A15.